France Culture et à 5 secondes près, il est 17h. Vous retrouvez maintenant à voix nue un entretien de Conrad Lorenz et d'Éric Laurent.
Jean-François Revel, nous allons passer cette semaine en votre compagnie pour parcourir avec vous un itinéraire varié, plus varié même qu'on ne le croit, qui vous a conduit depuis l'école primaire marseillaise jusqu'à l'Académie française, en passant par l'école normale supérieure, par l'enseignement de la philosophie, par le journaliste écrit et audiovisuel, encore aussi par des voyages, des rencontres, des amitiés, et ce qui compose peut-être, pour finir, une vie heureuse. Alors ma première question est au fond la suivante. Vous avez embrassé, ou successivement, ou simultanément, diverses carrières. Est-ce par paresse, par impossibilité de choisir, ou est-ce par un goût dévorant de ne rien laisser passer? Vers quoi vous conduisez votre tempérament?
Ben, vous savez, quand on prépare l'école normale et qu'on passe l'agrégation, on a en perspective naturellement d'enseigner, au moins au début, mais on a aussi d'autres perspectives, d'autres vues. Soit la recherche dans l'enseignement supérieur, soit écrire, se livrer à des activités dites culturelles, pas forcément au sein de l'université. Bon, il se trouve que personnellement, mes goûts me portaient plutôt à la deuxième orientation, non pas que naturellement je méprise mes grands collègues de l'enseignement supérieur et ceux qui ont fait des thèses de doctorat extrêmement sérieuses et importantes, mais enfin personnellement j'étais plus porté, disons, par le désir d'écrire des livres. Et j'ai d'ailleurs écrit des livres avant de devenir journaliste. Disons, c'est un petit peu une conséquence. J'établis une distinction à laquelle je tiens beaucoup entre l'écrivain qui écrit dans les journaux et le journaliste qui écrit des livres. Ce sont deux réalités tout à fait différentes. Initialement, je ne suis pas journaliste. J'avais jamais été reporter, ni
Alors, nous ferons une étape en journalisme avec vous.
Oui.
Mais pour respecter un peu la chronologie, qu'est-ce qui vous conduit dans vos études secondaires vers la philosophie plutôt que vers les belles lettres que vous appréciez aussi beaucoup?
Ben, c'est-à-dire que très tôt, dès l'âge de 12 ou 13 ans, j'ai pensé que c'était du côté, en effet, des belles lettres en général, n'est-ce pas, des livres, de la lecture, de la culture, que mes goûts me portaient. Et je suis arrivé en classe de seconde ou de première, j'ai eu l'intention de préparer l'école normale. Alors, une fois à l'école normale, ou une fois en Cagne, dans les classes préparatoires à l'école normale, vu le pluralisme des disciplines que l'on enseigne, évidemment, on hésite entre l'histoire, entre les lettres classiques, ou peut-être même une agrégation de langues vivantes, ou la philosophie. Bon, il se trouve que moi, j'ai été davantage attiré par la philosophie, ce qui ne m'empêchait pas naturellement d'aimer aussi beaucoup la littérature et l'histoire, mais on avait un peu l'impression, à cette époque-là, c'était l'époque où la philosophie dominait un peu, n'est-ce pas? C'était le prestige de la philosophie avec Sartre, Merleau-Ponty et tout cela, et que la philosophie englobait les autres disciplines, qu'en quelque sorte, si on était philosophe, on était ipso facto également un peu, forcément, connaisseur en matière de belles lettres et d'histoire, tout au moins en tant que lecteur, sinon auteur.
Alors, mais déjà, vous vous faites remarquer, au fond, par votre indépendance d'esprit et par l'originalité de votre parcours, puisque, à peine sorti des cordes normales, au lieu de faire, comme vos camarades, et de passer une agrégation pour aller dans l'enseignement, vous choisissez une autre voie. Alors, ma question est la suivante. Est-ce parce que vous étiez engagé dans des activités de résistance? Est-ce parce que vous avez connu ce climat particulier que vous avez conçu de la vie, et du début de la vie, un autre sentiment qui vous a conduit à ne pas immédiatement vous inclure dans un parcours balisé?
Ben, il est certain qu'après la période de l'occupation, l'idée de revenir purement et simplement à des études ne me satisfaisait pas complètement. De sorte que lorsque des occasions se sont offertes à moi de faire autre chose, qu'on m'a proposé par exemple d'être professeur à l'étranger, j'ai bondi sur l'occasion, puisque sur cette occasion, parce que cela me permettait, disons, d'ailleurs maintenant j'estime que bien que ma décision ait été quelque peu impulsive, elle a été très sage, parce que ça représentait pour moi une ouverture d'esprit, une occasion d'ouverture d'esprit, en tout cas, ne fût-ce que par l'apprentissage d'un certain nombre de langues étrangères, le contact, encore très jeune, avec des civilisations différentes de la civilisation française, même lorsque, comme dans le cas de l'Italie, c'était évidemment des civilisations très proches, mais enfin en même temps très différentes, pour le cas du Mexique, extrêmement différente à bien des égards.
On en reparlera tout à l'heure.
Et, alors, si vous voulez, cela m'a, en quelque sorte, permis de prendre une certaine distance, et par rapport au monde universitaire, dont je sortais, et par rapport aussi au milieu littéraire parisien, où j'aspirais à m'insérer. Si à l'âge de 24-25 ans, j'étais devenu critique littéraire autant moderne ou à esprit, j'aurais été très content, mais en même temps, d'une certaine façon, ça m'aurait un peu provincialisé à la française.
Vous avez voulu, au fond, plonger dans la vraie vie très tôt. Vous êtes quelqu'un qui avait des appétits qui vous empêchent de rester toujours à la même place selon un itinéraire tout tracé.
Et puis, cette succession de postes à l'étranger, voyager à l'étranger, il ne s'agit pas seulement de voyager, c'est quand vous y séjournez dans un pays pendant 3, 4, 5 ans, que vous y travaillez, que vous partagez la vie quotidienne des citoyens de ce pays, et ça a un énorme avantage, c'est que vous apprenez à avoir votre propre culture de l'extérieur, votre propre pays, votre propre continent européen de l'extérieur. Et comme on dit fréquemment aujourd'hui, vous apprenez à relativiser votre culture et à la situer par rapport à d'autres. Pas toujours défavorablement d'ailleurs, parce que la culture française et la culture européenne sont de très grandes cultures, mais il est très utile de pouvoir être capable de poser un regard extérieur et de voir ce qui, dans la culture française du moment par exemple, était véritablement universel, véritablement original, et ce qui au contraire relevait, disons, du folklore des milieux littéraires parisiens, de ce qu'on appelle les gens de lettres.
Nous reviendrons sur votre goût pour l'étranger. Qu'est-ce qui vous conduit, au fond, 10 ans après la sortie de l'école normale, à revenir vers, au fond, ce à quoi vous étiez destiné, c'est-à-dire l'enseignement, en passant l'agrégation, ce qui est assez rare, à 30 ans passés.
Oui, c'est ça. Alors, ce qu'il y a, c'est que, donc, me trouvant, ayant passé donc 3 ans au Mexique et 4 ans en Italie, je me suis dit, bon, il est temps quand même que je rentre un peu en France. Je vais passer toute ma vie à être professeur dans les pays étrangers, si intéressant cela soit-il.
Pourquoi pas?
Peut-être serais-je retourné un peu plus tard si j'avais eu l'occasion. Enfin là, j'avais envie vraiment de revivre en France. C'était pas simplement... j'avais envie ça faisait quand même près de 10 ans que je ne vivais plus en France. En tout cas, pas de façon continue, je veux dire. Et donc, j'avais envie de revivre en France et de m'installer en France. Et évidemment, du point de vue de mon métier, je dirais même de mon gagne-pain, il était urgent que je passe l'agrégation de manière à pouvoir avoir un poste et un traitement qui me permettent de vivre et de faire vivre ma famille.
Cette agrégation, vous la passez en 1956.
En 56, exactement.
Voilà. Oui. Alors c'est là que vous entrez au fond en enseignement philosophique en France, en tout cas, puisqu'à l'étranger, oui, vous enseignez aussi la philosophie, mais d'une autre manière. Et à peine êtes-vous installé dans votre chaire de professeur de l'enseignement secondaire, d'abord à Lille, ensuite à Paris, que vous brûlez en livre ce que vous adorez ou ce que vous professez dans la vie. 1956, vous devenez professeur. 1957, coup de tonnerre, pourquoi des philosophes? Un premier livre, après un roman dont nous pourrons parler, un premier livre qui, où d'abord Jean-François Ricard devient Jean-François Revel.
Oui.
Revel, ça n'est ni de la bourgade du Midi, ni un port de la Baltique. C'est
non,
quoi
c'est simplement... Enfin, remarquez, c'est un patronyme très répandu dans le Midi. Il y a beaucoup de Revels qui viennent des Revelli italiens. Mais c'est simplement que, comme je le raconte dans mes mémoires, d'ailleurs le voleur dans la maison vide, quelques copains et moi-même allions souvent rue Montpensier à Paris, chez un certain Revel, un restaurant qui s'appelait Chez Revel, et qui faisait une daube tout à fait irréfutable. Et alors je cherchais un patronyme, un pseudonyme qui me permette de conserver les mêmes initiales.
Mais par scrupule? Parce que vous auriez
alors, vécu... parce que je me disais, bon, la philosophie a toujours consisté à critiquer la philosophie. Bon, tous les philosophes ont expliqué que leurs prédécesseurs étaient des imbéciles, commencé par Aristote vis-à-vis de Platon, et Leibniz vis-à-vis de Descartes. Mais, en même temps, pour des débutants, ce n'était pas forcément une bonne pédagogie. Il fallait pas que je... mon souci était de ne pas désorienter mes élèves. En disant qu'il y avait un professeur qui, au fond, détestait la matière qu'il enseignait. Or, pas du tout. En critiquant la philosophie, je la pratiquais, la philosophie, au contraire. Cela dit, cette ruse n'a servi strictement à rien, parce que le deux choses l'une ou bien votre livre n'a aucun succès, aucun retentissement. À ce moment-là, personne ne se soucie de qui vous êtes, qui en est l'auteur, ou bien on en parle et aussitôt tout le monde sait que c'est vous. Bon, et mes élèves, d'ailleurs, m'ont très gentiment offert un pot pour, parce que j'ai eu le prix Fénéon pour ce livre, et un jour j'arrivais en classe et il y avait des tables avec de la bière, des verres, etc. pour, avec une banderole, disons, gloire à notre lauréat. C'est pas bon, c'était très gentil. Mais en fait, ça n'était pas. Alors, l'origine de ce pseudonyme, c'est ça.
Bon. Alors, ce livre en 1957, loin de passer inaperçu, est un coup d'éclat. Est-ce que vous aviez une volonté, nous allons analyser ce qu'il y avait dedans pour montrer à quel point il était iconoclaste, mais est-ce qu'il y avait, comme c'est un peu le cas des normaliens, du côté étudiant que vous avez conservé jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, et qui est un des aspects aussi très très sympathiques de votre personnalité, si je puis me permettre, il y avait le goût de provoquer un peu?
Non, véritablement, c'est un livre que j'ai écrit lentement, d'ailleurs j'ai commencé à l'écrire vers 1952, 51,
donc avant même d'être enseignant.
Quand j'étais à Mexico, quand j'enseignais la philosophie à Mexico, oui. Si vous voulez, je notais mes observations, tout simplement. Bon, je constatais en relisant Descartes que Descartes ne prouvait pas du tout ce qu'il disait, qu'il y avait beaucoup d'affirmations complètement gratuites, qui n'étaient pas de vraies démonstrations, et qu'on pouvait trouver ça un peu chez tous les philosophes. Bon. Et donc j'ai... écrit assez lentement ce livre, il n'était même pas complètement terminé lorsque j'ai été, il était en cours de rédaction quand j'ai été nommé en Italie, c'est-à-dire je rejoins mon poste à la fin de 1952, et j'ai dû le finir fin 53. Là, en manuscrit, je l'ai fait lire à un certain nombre de mes amis, notamment à Louis Althusser, qui était à ce moment-là... Donc, agrégé répétiteur de philosophie à l'école normale,
caïman
dans le dialecte de l'école, et qu'il avait lu très attentivement, m'a fait plusieurs observations, a été plutôt pour, et même assez pour, et il a donc il m'a beaucoup encouragé en disant que m'a fait corriger certains détails sur lesquels il pensait que je n'étais pas assez clair ou assez solide, et puis je l'ai fait lire aussi à mon ami Pierre Nora, qui à ce moment-là était encore étudiant en philosophie, il n'a bifurqué que par la suite pour se destiner à l'histoire. Là aussi, il m'a fait plusieurs observations et remarques qui m'ont été très utiles. Il y a quelques autres de camarades comme cela. Et c'est quand... finalement, quand je suis rentré en France, j'ai donc proposé à René Julliard le manuscrit d'un petit roman que j'avais écrit, et qui n'a pas fait beaucoup de bruit. Et
rappelons son nom, c'était l'Histoire de Flore.
L'Histoire de Flore, oui. Il a eu un petit succès d'estime, enfin pas plus. Mais Julliard, il comptait beaucoup. Et après, quand je lui ai apporté le Pourquoi des philosophes, il m'a dit, bon, je le publie pour vous faire plaisir, mais évidemment, ça ne se vendra pas du tout, parce que c'est trop difficile, la philosophie c'est une spécialité, ça n'intéresse pas le grand public. C'était le contraire. Parce que ça a fait beaucoup de bruit, à la fois parmi les philosophes et dans le grand public, parce qu'il y a beaucoup de gens cultivés auxquels les philosophes expliquaient depuis très longtemps qu'ils étaient des imbéciles s'ils ne comprenaient pas tout ce que philosophes disaient, même quand c'était inutilement obscur ou intrinsèquement contradictoire. Donc, si vous voulez, ça a eu un retentissement considérable tout de suite.
Mais en vous écoutant aujourd'hui, on pourrait croire, pour ceux qui n'auraient pas lu ce livre, mais ce serait bien dommage, qu'il s'agit d'une critique de la philosophie, à l'intérieur même de la philosophie, comme quand Pascal dit « se moquer de la philosophie, c'est encore philosopher ».
Oui.
Or, je ne sais pas si vous l'avez relu récemment, moi oui, ça n'est pas tout à fait ça non plus. C'est le congé donné à la philosophie, c'est de dire, je vous cite, « le rôle historique de la philosophie est réellement achevé », et donc que la philosophie est morte. Et la preuve, c'est que vous écrivez, 10 ans plus tard, restant sur les mêmes positions, une histoire de la philosophie occidentale de Thalès à Kant. Donc, oui, la philosophie aurait pris congé à la fin du XVIIIe siècle. Donc, ça n'est pas Leibniz par rapport à Descartes, c'est le fait que la philosophie, dans les dernières décennies du XXe siècle, au fond, a perdu toute substance intellectuelle et toute même utilité dans la cité.
Mais ça, je pense que la philosophie a été tuée par son propre succès, dans ce sens que la mission historique de la philosophie, c'était de donner naissance à la science. C'est la philosophie, c'est l'activité intellectuelle qui permet de passer de la mythologie à la connaissance scientifique. C'est-à-dire que la philosophie se veut rationnelle, contrairement à la mythologie, aux explications de type religieux qui ont leur place, mais enfin qui ne relèvent pas de la démonstration rationnelle. Et alors la philosophie est une activité rationnelle, mais qui en même temps, sans preuve autre que la solidité du raisonnement telle qu'elle apparaît au philosophe lui-même. Bien. Alors, la philosophie donne naissance successivement à la physique au début du XVIIe siècle, un peu plus tard à la chimie et à la biologie, plus tard encore à la sociologie, à la psychologie, etc., à l'économie, au fond, ayant rempli son rôle historique, elle n'a plus de raison d'être. De sorte qu'à partir du moment où la véritable connaissance, c'est la connaissance scientifique, la philosophie devient un genre littéraire, tout simplement.
Mais alors, à vos élèves, vous n'enseignez ni Hegel, ni Bergson, ni Heidegger ?
Si, parce que si vous voulez, je pense que l'histoire de la philosophie, la philosophie, c'est aussi enseigner l'histoire de la pensée humaine, donc ces diverses formes, comme on enseigne l'histoire de la littérature. Bon, il y a des œuvres philosophiques, mais on peut leur expliquer aussi, par exemple, ce que l'introduction à la philosophie de l'histoire de Hegel a d'intéressant et en même temps d'arbitraire. Cette volonté de systématiser le processus historique comme s'il obéissait à une logique interne absolument rigoureuse, évidemment, est un aspect que l'on peut critiquer. Mais à ce moment-là, la philosophie ne se présente plus comme elle avait l'habitude de se présenter, comme une sorte de connaissance absolue et irréfutable. Elle se présente comme une activité intellectuelle, une interprétation, parmi d'autres, qui relève plutôt du genre de l'essayiste. Et cette espèce d'incertitude liée au genre de l'essai, les philosophes essayent de la masquer en employant tout un vocabulaire pseudo-technique qui obscurcit leur discours prétendant qu'il s'agit d'un vocabulaire de nature scientifique. Alors, c'était pas le cas, il n'y a pas plus de technique philosophique, le vocabulaire philosophique n'a rien de rigoureux en soi.
Alors, la conclusion, au fond, de cet essai qui fit très grand bruit et qui vous valut des polémiques avec Claude Lévi-Strauss ou avec d'autres, c'est qu'au fond, la philosophie a disparu en tant que telle et qu'il ne reste plus que des philosophes.
Il ne reste plus que des écrivains d'un genre particulier qui est le genre philosophique.
Mais Jean-François Revel, êtes-vous un philosophe ?
Je crois, oui, du fait que l'on réfléchit. On est philosophe, c'est ça au fond que voulait dire Socrate. On a l'idée d'inventer une sorte de science absolue et postérieure. Mais tout individu qui réfléchit, par exemple pour les philosophes classiques, intransigeants, quelqu'un comme Montaigne n'est pas un philosophe parce que ce sont des réflexions à bâton rompu. Mais à mon avis, il est beaucoup plus un philosophe que Descartes, parce que lui, il n'affirme que ce qu'il constate vraiment. Qu'est-ce qu'il connaît vraiment ? Il remet en question la pensée conventionnelle, tous les préjugés à la fois intellectuels et moraux, et il réfléchit sur l'existence humaine, de façon très originale, comme chacun le sait, sans prétendre apporter une démonstration absolue d'un caractère scientifique totalement irréfutable. Et à mon avis, il est beaucoup plus philosophe dans ce sens, et beaucoup plus proche de Socrate que ne l'est Descartes ou que ne l'est Hegel.
Donc dans votre esprit, tout ce qui touche au fond à la métaphysique, à la morale et à la religion ne fait pas partie du domaine de la philosophie.
À la morale, oui, je dirais que oui, parce que si vous voulez, la philosophie, ça a été au fond la réponse toujours à deux interrogations. Que puis-je connaître et comment dois-je vivre? Et cette deuxième partie, c'est la morale. Du reste, ce qui reste finalement des grands systèmes de l'Antiquité, le stoïcisme, l'épicurisme ou même le platonisme dans un sens, ou l'aristotélisme avec l'éthique à Nicomaque et la politique, ce sont des leçons d'art de vivre. Un petit peu comme aujourd'hui, si vous voulez, dans le bouddhisme, on peut distinguer toute la partie métaphysique, et dans le bouddhisme, il y a une sorte de sagesse.
Justement, j'allais y venir. Dans vos écrits, dans tout votre parcours, on pourrait vous définir trop sommairement, mais naturellement, comme un rationaliste non cartésien. Or, vous vous êtes intéressé à un moment de votre vie, alors que vous aviez fait profession, au moins d'agnosticisme, sinon d'athéisme, pendant vos travaux philosophiques, vous êtes intéressé à la religion sous sa forme orientale pour une circonstance personnelle, qui est votre lien avec votre fils aîné, Mathieu Ricard.
Oui.
Mais au fond, est-ce que la religion, vous en concevez les présupposés, ou est-ce que c'est un domaine qui vous reste étranger, c'est-à-dire que vous l'admettez sans la comprendre ?
Je l'admets sans la comprendre, mais le bouddhisme n'est pas une religion. Il n'y a pas de révélation, il n'y a pas de dogme, il n'y a pas de Dieu.
Il y a un clergé.
Non, il y a un clergé, mais un clergé qui est plutôt composé, disons, de conseillers. N'est-ce pas, les Rinpoche sont des maîtres spirituels, comme pouvaient l'être les philosophes de l'Antiquité, Antisthène ou Aristippe, etc., Diogène, auxquels les disciples s'attachaient, parce que c'était un modèle d'existence, une source de sagesse et de compassion, l'apprentissage de la compassion pour vis-à-vis des autres. Alors, moi, je me suis intéressé au bouddhisme, en effet, à cause de cette circonstance personnelle que j'ai un fils qui est devenu moine bouddhiste, et ça m'intéressait de savoir quel était le processus qui l'y avait conduit. Mais en même temps, j'ai cité l'exemple du bouddhisme parce que le bouddhisme est beaucoup plus proche, en quelque sorte, du stoïcisme ou de l'épicurisme, que des grandes religions révélées que nous connaissons ou que l'Orient a aussi par ailleurs, enfin, qu'il s'agisse de l'hindouisme ou de l'islam. C'est beaucoup plus un mode de vie. Alors, après ça, les croyances quant à la transmigration, la réincarnation qui accompagnent ce mode de vie ou qui lui imprime son sens final, c'est un autre problème. Mais il y a beaucoup de choses dans le bouddhisme qui sont applicables dans la vie courante, sans pour autant que l'on soit obligé de croire à tout l'arrière-plan métaphysique du bouddhisme.
Au fond, vous êtes toujours resté un fils de la Grèce, comme disait Gérard de Nerval.
Oui, beaucoup, oui, en effet. Il est incontestable que dans les philosophes que l'on peut relire, les philosophes grecs sont ceux qui méritent le plus d'être relus, oui.
C'était à voix nue. Laurentès s'entretenait avec Jean-François Revel.
De la terre au ciel, sur France Culture, voyager à travers de nouveaux paysages.